Vous écoutez RTL.
Première radio de France.
La curiosité est un vilain défaut.
Hitler est mort depuis 70 ans. Et un problème se pose aujourd'hui.
Jusqu'à 22h,
il nous a laissé en héritage ses idées. Et elles sont à nouveau d'actualité. Une loi allemande permet la réédition de son manifeste de la haine. Mein Kampf. Ce livre, interdit pendant des décennies, pourrait être de nouveau publié.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Vous l'avez entendu, Mein Kampf, le livre programme d'Adolf Hitler est tombé dans le domaine public depuis le 1er janvier. Faut-il pour autant le publier? Comment a-t-il été écrit avant de devenir un best-seller de l'Allemagne nazie? On vous raconte l'histoire de ce livre avec le journaliste Antoine Wittkin. Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue.
Merci.
Mein Kampf, c'est l'un des livres politiques les plus vendus de tous les temps.
Absolument, c'est un des livres politiques les plus vendus de tous les temps, avec peut-être le petit livre rouge de Mao. Il a été diffusé sous le Troisième Reich en allemand à 12 millions d'exemplaires, ça on a les chiffres assez précisément. Il est difficile de savoir à combien d'exemplaires il a été diffusé hors de l'Allemagne avant-guerre, mais c'est sans doute des chiffres assez considérables. Et puis Mein Kampf continue de se vendre encore jusqu'à aujourd'hui. Et donc effectivement, c'est un livre qui s'est considérablement vendu. Question de savoir s'il a été lu, c'est autre chose, on en parlera.
On en parlera, oui, évidemment.
En tout cas, effectivement, c'est le livre politique le plus vendu de tous les temps, on peut dire ça, mis à part le petit livre rouge.
Vous dites qu'on peut continuer de se le procurer. Alors évidemment, il y a Internet aujourd'hui, donc c'est facile. Mais en France, dans une librairie, on peut trouver Mein Kampf?
En France, on peut trouver Mein Kampf, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Et d'ailleurs, moi-même, avant de commencer cette enquête il y a quelques années, je le pensais aussi. Et j'ai découvert, et ce qui est la réalité jusqu'à maintenant, que Mein Kampf est autorisé à la vente au terme d'un procès qui a eu lieu en 1979 en France et qui autorise ce livre à la vente à condition qu'il y ait inséré un avertissement au lecteur de quelques pages. Et donc à ces conditions, on peut trouver Mein Kampf en librairie. Je crois même qu'il y a encore jusqu'à quelques années, on pouvait le commander dans des grandes surfaces spécialisées, dans des grandes librairies spécialisées. Donc Mein Kampf est légal en France, ce qui moi d'ailleurs ne me pose pas de problème particulier. Mein Kampf est avant tout un texte historique, certes d'un extrémisme absolu, d'une violence absolue, on en parlera sans doute.
On va le décrire, oui.
Mais c'est avant tout un document historique assez clé pour comprendre et pour savoir ce qu'a été le Troisième Reich.
Alors, Mein Kampf est tombé dans le domaine public. Ça veut dire quoi pour ce texte historique? Ça veut dire qu'on peut tous le publier, par exemple?
Ça veut dire que
le republier?
Ça veut dire que Mein Kampf est un livre.
Ouais.
Est un livre commercial, c'est comme ouais. N'importe quel livre, comme Les Misérables de Victor Hugo ou d'autres livres,
ouais.
Et que donc, après un certain nombre d'années après la mort de son auteur, comme n'importe quel livre, il tombe dans le domaine public. Et ça veut dire qu'en principe, quiconque peut le publier librement.
Donc alors, c'est les 70 ans après la mort d'Hitler qui
les 70
qui
ans après la mort d'Hitler, absolument.
Voilà, qu'on soit dans ce timing,
voilà.
D'accord, bien compris.
Ça, c'est la règle. Alors, ça a suscité évidemment un certain émoi, parce que chacun avait l'impression qu'à partir de cette date-là, on pouvait publier Mein Kampf, le voir partout, etc. La réalité est un peu différente, puisque en France, de facto, il est déjà légal. Si un éditeur voulait demain le republier intégralement, et je ne parle pas là de version scientifique, avec des commentaires scientifiques ou de version historique, en théorie, il le pourrait, à condition de le retraduire, parce que les droits de la traduction en France appartiennent à une maison d'édition.
Qu'est-ce qui fait polémique, alors?
Ce qui fait polémique, c'est ça. Ça veut dire, c'est cette idée-là.
De le publier sans commentaire.
De publier sans commentaire.
Ou pire, on peut imaginer des nostalgiques du Troisième Reich qui le publient avec des commentaires élogieux ou avec, enfin, qu'ils le réécrivent d'une certaine façon, qu'ils le réactualisent. On peut tout imaginer à partir d'un moment où tout le monde peut faire ce qu'il veut de ce livre.
Absolument. La polémique en France est née au moment où, il y a quelques semaines, quelques mois, une maison d'édition parisienne a annoncé sa volonté de republier Mein Kampf.
C'est Fayard.
Le retraduire, Fayard, absolument, à sorti d'un certain nombre de commentaires d'historiens. Ça crée une polémique qui, à mon sens, est assez biaisée dans la mesure où, comme je vous le disais, Mein Kampf est déjà là et qu'il vaut mieux essayer de comprendre ce texte plutôt que de vouloir le mettre à distance, dans la mesure où, de toute façon, ne serait-ce que par Internet, Mein Kampf est accessible. Mais je pense que cette polémique renvoie à une réalité, c'est que Mein Kampf est un texte encore profondément tabou.
Et on va expliquer pourquoi.
Qui suscite le fantasme.
Ouais,
voilà.
On va expliquer pourquoi. Vous avez enquêté, vous le disiez, sur ce livre dans une enquête qui est publiée chez Flammarion, Mein Kampf, histoire d'un livre. Antoine Wittkin, on va raconter l'histoire de ce livre. D'abord, comment est-il écrit? Dans quelles conditions Hitler écrit-il Mein Kampf?
Hitler écrit Mein Kampf en 1923. Il est à l'époque un condamné à une peine de prison après un putsch qu'il a tenté contre la jeune démocratie allemande qui sortait de la Première Guerre mondiale, à la tête d'un petit groupuscule d'extrême droite, le NSDAP déjà. Ce putsch a lamentablement échoué et Hitler est pour le coup un tocard politique, c'est-à-dire qu'il a tout perdu, il est en prison et donc il commence à écrire un plaidoyer en vue de son procès qui doit se tenir à Munich. Et donc il écrit ça avec une vieille machine à écrire Remington qu'on lui offre, ainsi que des ramettes de papier qu'on lui offre dans sa prison. Et donc il écrit ce plaidoyer.
Il sort de prison.
Le procès a lieu, il est condamné à une peine légère et il sort de prison assez rapidement parce que justement la justice allemande l'estime finalement non dangereux à ce moment-là.
Oui, que, dans votre livre, vous publiez la lettre du directeur de la prison qui justifie la libération anticipée.
En disant qu'il présente assez hallucinante. Risque, dans la mesure où il a perdu il a échoué à ce putsch. Et c'est finalement, paradoxalement, Mein Kampf qui va l'aider à rebondir. Et ça, c'est, je dois dire, une des choses qui m'a surpris, c'est une des choses que je dis dans ce livre, c'est que, comme je vous le disais, en sortant de prison, il est à la tête d'un groupuscule totalement déconfit après l'échec de ce putsch. Il a l'idée de publier ce plaidoyer, qui s'appelait au départ 4 ans et demi de lutte contre le mensonge et la lâcheté. Je cite de mémoire, peut-être que je fais une erreur. Qui n'était pas un titre très commercial. Et donc, autour de lui, il y a des gens, notamment un éditeur, Max Amann, qui le convainc de le publier, de l'appeler « Mon combat »,« Mein Kampf » en allemand, ce qui est évidemment plus efficace. Et c'est la publication de ce livre qui lui permet d'abord de se réimposer à la tête des nazis allemands.
Parce que ça marche.
SDAP.
Parce que le livre rencontre rapidement un succès ou pas ?
Ça ne marche pas très bien.
Ah d'accord, pas tout de suite.
C'est un petit succès.
Il se prend pour un écrivain, Hitler ?
Il se prend pour un écrivain. Et c'est ça qui change tout. Et juste un exemple intéressant, c'est Goebbels, qui deviendra par la suite le chef de la propagande nazie. Goebbels, au début, suivait Hitler, avant le putsch raté de 1923. Et puis, à la faveur de l'emprisonnement d'Hitler, il commence à réfléchir, il commence à hésiter. Il suit un nouveau chef qui a émergé au sein du NSDAP. Il estime qu'Hitler est finalement un incapable qui a raté donc le putsch. Et c'est la lecture de Mein Kampf qui le convainc qu'il se trouve face à quelqu'un qui est à la fois un orateur hors pair, puisque c'est ça Hitler d'abord, un tribun, un homme d'action capable de recourir à la violence politique et par ailleurs un intellectuel, entre guillemets. Mais c'est comme ça qu'Hitler apparaît à ce moment-là. Et vous voyez bien que la conjonction de ces trois regards qu'on porte au sein du NSDAP sur Hitler, ça change tout et c'est ça qui permet à Hitler petit à petit de reprendre pied au sein de son parti et puis ensuite plus largement dans l'Allemagne.
Et il va réussir à prendre le pouvoir en 1933, peut-être en partie grâce à Mein Kampf qui va lui servir de programme. On continue de se passionner pour l'histoire de ce livre dans la curiosité.
Vous écoutez RTL.
20h-22h, Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Mein Kampf, mon combat, on vous raconte l'histoire de ce livre effrayant dans la curiosité alors que la question de sa publication en France se pose de nouveau puisqu'il est tombé dans le domaine public depuis une semaine. Antoine Winkin, vous, dans votre ouvrage Mein Kampf, l'histoire d'un livre publié chez Flammarion, vous nous racontez l'histoire, la genèse de ce livre qu'Hitler va écrire alors qu'il est emprisonné en 1923. Il va avoir l'idée de sortir ce livre et va devenir très populaire au sein de ses camarades, de son groupe politique parce que finalement il va apparaître comme un intellectuel doublé d'un très bel orateur. Est-ce que ce livre va devenir un outil carrément de campagne électorale pour Hitler et ses amis en 32?
Ça devient un outil de campagne et d'ailleurs on le remarque aux chiffres des ventes. Comme je vous le disais, au moment où Hitler sort de prison, les chiffres sont très réduits, quelques milliers d'exemplaires. Et puis, lorsque Hitler s'approche du pouvoir, et il le prendra finalement en 1933, ce sont des centaines de milliers d'exemplaires. La seule année 1933, l'année cruciale pour Hitler, au moment où il prend le pouvoir, et bien avant qu'un appareil de propagande se mette en place, qui ensuite distribuera Mein Kampf par des circuits d'État, un million d'exemplaires se vendent. Donc, c'est évidemment un outil de propagande important pour Hitler. Ça renvoie encore une fois au fait qu'il a écrit un livre et en Allemagne, qui est un pays qui révère les philosophes, peut-être encore plus que la France et les intellectuels, ça compte. Donc bien sûr, et puis finalement ça permet à Hitler autre chose. Alors ça peut paraître anecdotique, je suis pas sûr que ça l'était tant que ça à l'époque, c'est que Hitler renonce à son salaire de chancelier. Il annonce pendant la campagne que s'il est élu, il renoncera à son salaire de chancelier pour marquer sa différence avec les autres hommes politiques allemands de l'époque.
Parce qu'il s'enrichit grâce à ce livre.
S'il fait cela, c'est parce qu'il est devenu, grâce à ce livre, immensément riche. 1 million d'exemplaires pour un livre qui coûtait relativement cher à l'époque, c'est une grosse somme d'argent. Et c'est avec d'ailleurs cet argent qu'il achètera notamment le Berghof, cette demeure assez célèbre des Alpes bavaroises, que l'on voit dans un nombre de films, d'archives, peut-être que vos...
Le nid d'aigle.
Voilà, c'est ça, exactement.
Alors, est-ce que c'est vrai que ce livre est à ce point célèbre, Mein Kampf, qu'il est offert aux jeunes mariés
alors,
en Allemagne?
Sous le Troisième Reich, effectivement, Mein Kampf devient, comme ça a été dit par la propagande, la Bible nazie. Et notamment, effectivement, les mairies peuvent l'offrir aux jeunes mariés. Beaucoup de mairies le font, pas toutes, certains ne le font pas. Ne pas le faire, c'est en soi déjà un signe de résistance. Cologne, par exemple, qui est un maire qui est en retrait par rapport au nazisme, relativement en retrait, disons, ne le fait pas. Mais effectivement, voilà, il y a de multiples photos que l'on trouve encore aujourd'hui, où on voit des jeunes mariés, femmes en robe de mariée.
Qui posent avec le livre.
Il faut maintenant s'intéresser au contenu de ce livre, parce qu'on a tous entendu parler de Mein Kampf, très peu d'entre nous, j'imagine, l'ont lu. D'abord, c'est un livre clairement antisémite. L'obsession antisémite d'Hitler s'exprime presque à chaque page.
Absolument, c'est pas la seule chose qui caractérise Mein Kampf, mais c'est ce qui sans doute frappe le plus lorsqu'on le lit aujourd'hui, c'est une violence antisémite absolue, alors qui est sous-tendue par une réflexion plus large, réflexion, je sais pas si le mot est juste, mais en tout cas, oui, une idée plus large, c'est une idée d'inégalité des races, que la race allemande est à vocation à dominer toutes les autres, qu'elle était en danger, et que finalement, ce qui menace le plus la race allemande, comme le dit Hitler, ce sont les juifs. Et effectivement, Mein Kampf est un texte profondément antisémite.
Le mot juif est...
Il revient très souvent, ça structure la pensée de Hitler, mais ça n'est pas seulement ça, c'est aussi un texte profondément hostile à la démocratie libérale, profondément hostile au communisme, profondément hostile par exemple aux Noirs. Il y a des pages d'un racisme sur les Noirs absolument sidérant, qui est à la mesure en intensité de violence de l'antisémitisme. Donc Mein Kampf, c'est tout ça. C'est pas seulement ça, c'est aussi un programme.
Mais oui, il annonce ce qui va se passer. Alors évidemment, aujourd'hui, on se dit, mais c'est pas possible, comment ce livre a pu être diffusé sans que des hommes politiques d'autres pays se lèvent plus tôt et empêchent Hitler de prendre le pouvoir, de réarmer l'Allemagne, etc. etc. C'est facile à dire d'aujourd'hui, mais il annonce ce qu'il va faire, notamment la disparition de la race juive. C'est son objectif, c'est écrit.
C'est vraiment la question fondamentale qui, encore aujourd'hui, me stupéfait. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai voulu écrire ce livre. C'est en partant de cette stupeur-là. Finalement, tout était écrit. Alors, non pas dans le détail, les camps d'extermination n'étaient pas annoncés tels quels, mais l'idée d'un combat à mort entre les Allemands et les Juifs était là. L'idée d'une guerre contre la France était là. L'idée d'une guerre à l'Est contre l'URSS était là. L'organisation de l'État, le racisme comme le fondement de l'organisation de l'État nazi, tout ça était là. Et effectivement, un philosophe allemand de l'époque que je cite et qui dit « Pour moi, cette question-là, pourquoi est-ce que Hitler est parvenu au pouvoir et a pu le rester alors que son livre était disponible à des millions d'exemplaires et sous les yeux des Allemands, ça restera le plus grand mystère du Troisième Reich. » Et c'est vrai.
Un immense mystère aussi, Antoine Wittgen, c'est de savoir pourquoi les Allemands n'ont pas réagi. C'est un livre qui a énormément de succès, qui a été énormément lu en Allemagne. C'est dans l'air du temps, ce racisme, violence.
Le racisme était dans l'air du temps. Ça, c'est très intéressant. Effectivement, cet antisémitisme-là, ce racisme-là, finalement, à l'époque, ça peut paraître surprenant aujourd'hui, mais n'effrayez pas tant que cela, ne surprenez pas tant, parce que ces idées-là, ces théories-là...
C'était affiché ou c'était latent dans la population ?
Était répandu. Alors, c'était pas latent, ça touchait des franges minoritaires de toutes les sociétés européennes, pas seulement les Allemands. Dans le même temps, des livres similaires se publient en France, se publient aux États-Unis, avec Ford, par exemple.
Oui, on l'avait raconté.
Donc, ça touchait des minorités, évidemment, mais ça les touchait avec une intensité bien plus importante. Si on faisait des comparaisons aujourd'hui, ça veut dire que c'est à peu près des pourcentages de la population minoritaire, mais en revanche, lorsqu'on adhérait à ces idées d'extrême droite de l'époque, c'était des idées totalement exterminationnistes, c'était pour dire les mots, c'était ça. Et finalement, ce qui est frappant aujourd'hui, rétrospectivement, c'est que cet antisémitisme-là, par exemple, ce racisme ou ce racisme anti-noir, cette hostilité fondamentale à l'idée d'une égalité entre les races, ça choquait beaucoup moins. Et par exemple, ce qui choquait beaucoup dans Mein Kampf, à l'étranger, en France par exemple, c'était les mots d'Hitler sur la France.
Oui, alors on en parlera tout à l'heure de ça, mais d'abord je voudrais revenir sur cette question des Allemands. C'est-à-dire, vous nous avez dit tout à l'heure, à la fin de la guerre, 12 millions de Mein Kampf distribués ou achetés en Allemagne. Ça veut dire que tous les Allemands l'ont lu, ce livre ?
C'est la grande question. Au moment de mon enquête, j'avais rencontré un jeune historien allemand qui me disait qu'il avait retrouvé un exemplaire de Mein Kampf assez récemment, c'était il y a quelques années, dans le jardin de sa grand-mère, enveloppé dans un cellophane. Et alors, j'ai posé la question...
Alors, je vous interromps parce qu'on a ce témoignage que vous aviez diffusé dans un documentaire sur Arte il y a quelques années. Écoutez le témoignage de ce jeune Allemand.
Ma grand-mère avait ce livre sur une étagère. La première chose qu'elle ait faite, après la chute, c'était de l'envelopper dans des feuilles de papier huilé et de l'enterrer dans le jardin. Personne ne savait s'il fallait le jeter ou le garder, car on avait le sentiment que c'était un texte délicat. Alors la plupart des gens l'ont caché quelque part, et c'est exactement ce qu'on fait avec les objets délicats. On ne les détruit pas, on les cache et on les conserve en secret.
C'est le miroir de la honte, Mein Kampf, pour les Allemands.
C'est le miroir de la honte. Et cette honte, ça renvoie au fait que, finalement, ou bien on l'avait lu, Mein Kampf, et donc on ne pouvait pas dire, après la guerre, comme beaucoup d'Allemands l'ont dit, on ne savait pas. Ou bien on ne l'avait pas lu, et alors ça voulait dire qu'on avait sous les yeux, finalement, le texte qui signait le crime, qui annonçait le crime, et que, eh bien, on n'a pas lu et qu'on n'a rien fait, qu'on n'a rien pu faire. Bon, évidemment, ça se joue de manière plus complexe que cela, sans doute, mais dans l'imaginaire, vous voyez bien à quoi ça correspond, cette honte. Et la question se pose, effectivement, est-ce qu'ils l'ont lu ? Et ce témoignage est intéressant de cet historien-là, parce que ça voulait dire que sa grand-mère lui a dit, d'ailleurs, je lui ai posé la question, lui a dit qu'elle ne l'avait pas lu, Mein Kampf, qu'elle l'avait là, qu'il fallait l'avoir, mais qu'elle ne l'avait pas lu. Mais lorsque l'Allemagne a perdu la guerre, elle n'a pas pu, alors qu'elle n'était pas spécialement nazie, m'avait-il dit. Hein. C'était vraiment une Allemande ordinaire qui avait eu Mein Kampf. Alors peut-être qu'elle s'était mariée ou qu'elle l'avait eu en cadeau de...
Elle n'avait pas pu le détruire.
Cadeau de retraite. Beaucoup d'entreprises offraient ce livre. Voilà. Mais elle n'avait pas pu le détruire. Parce que encore après-guerre, alors même qu'elle n'était pas nazie, il y avait une aura sacrée qui se dégageait de ce livre, comme un peu la Bible, finalement, d'une certaine manière. On ne détruit pas une Bible. Et bien, pour cette Allemande de 45, on ne détruisait pas Mein Kampf.
Hitler prend le pouvoir en 1933 et les nazis veulent que Mein Kampf soit diffusé dans le monde entier, sauf en France.
Vous écoutez RTL.
On continue de vous raconter l'histoire de Mein Kampf. Mein Kampf, histoire d'un livre, c'est le titre de l'ouvrage de notre invité Antoine Wittkin. On a vu tout à l'heure comment ce livre-programme écrit par Hitler en détention était devenu la Bible du régime nazi. Puis on évoquait, entre guillemets, le classement des livres politiques. On disait qu'il y avait le petit livre rouge de Mao et ensuite Mein Kampf. C'était bien des livres politiques qu'on parlait pour répondre à nos auditeurs. Denis qui nous disait la Bible se vend plus, évidemment. Mais là, on parle de livres politiques. Et je ne pense pas qu'on puisse considérer que la Bible soit un livre politique.
C'est un livre politique, mais pas seulement.
Ça, c'est un autre débat. Donc, on continue de parler de Mein Kampf, évidemment. Et du fait que les nazis ont voulu le diffuser. Il s'est vendu un peu partout en Europe, mais les nazis, quand Hitler était au pouvoir, on est bien d'accord, refusent que ce livre soit vendu en France. Pourquoi ?
Ils refusent, absolument. Et ils refusent à toute force. Hein. Hitler suit ça de très très près, se fait envoyer un rapport lorsque, en France, dès 1933, premier texte qui contient des extraits de Mein Kampf est publié. Il demande même à son ambassade de traduire cet opuscule. Et alors, ça renvoie à une raison, c'est que dans Mein Kampf, la France est le pays le plus attaqué, avec une très très grande violence, parce que pour Hitler, la France incarne à la fois l'ennemi dont il faut se venger suite à la Première Guerre mondiale perdue, et aussi un symbole justement de cette démocratie libérale exécrée, démocratie franc-maçonne comme il le dit, enjuivée, ce sont ses expressions. Et donc, en 1933, lorsqu'il arrive au pouvoir, il a un but diplomatique, c'est d'apaiser ses relations avec la France pour pouvoir réarmer. Parce que la France, à ce moment-là, a une armée beaucoup plus puissante que l'armée allemande. Et donc, il donne des interviews à des journalistes français. Et parfois, la question vient de part de journalistes qui ont lu Mein Kampf en allemand et qui lui disent « Mais dans Mein Kampf, vous avez écrit telle et telle phrase sur la France et sur la nécessité de la revanche. Et là, vous nous dites maintenant que vous voulez l'apaisement, que vous voulez la discussion, etc. » Et Hitler dit, écoutez, j'ai écrit ce texte lorsque j'étais plus jeune, en prison. C'est un
texte.
J'ai changé. Et pour ces raisons-là, il ne veut pas que le public français puisse lire Mein Kampf dans le texte en version intégrale. Et donc, il refuse de vendre les droits, alors même que sa maison d'édition a vendu les droits de traduction dans énormément de pays, dont les États-Unis, etc. Mmh. Souvent d'ailleurs de manière tronquée. Et ensuite, effectivement, suit un épisode assez rocambolesque, assez étonnant, qui est l'histoire de cette traduction française qui, malgré tout, se fera.
Alors justement, c'est une petite maison d'édition parisienne qui va publier Le Brûlot d'Hitler. Son patron s'appelle Fernand Sorlot. Qui est-il ?
Fernand Sorlot, c'est un petit éditeur, toute petite maison d'édition. Il est fasciste, ça veut dire qu'il a une plus grande admiration pour l'Italie fasciste de Mussolini, ce qui n'est pas incompatible à l'époque avec le fait d'être hostile au nazisme et à Hitler, comme quoi l'histoire est plus complexe que certains ne le voudraient aujourd'hui. Et il décide de publier Mein Kampf pour avertir les Français de la pensée et du programme diplomatique, politique internationale de Hitler. Je ne suis pas sûr que dans sa tête, la dimension raciste, antisémite ait beaucoup compté. Comme je vous le disais, à l'époque, ces idées-là, finalement, sont dans l'air du temps. Mais toujours est-il que...
Le côté anti-français prévaut.
Mmh. Mais pour réaliser cette traduction, dans un temps record, un an plus tard, un an après l'arrivée au pouvoir de Hitler, cette traduction sortira. Il faut traduire 800 pages. Et pour cela, il se fait aider par le ministère de la guerre, secrètement, qui évidemment a à cœur aussi de prévenir les Français du danger hitlérien. Il se fait aider du maréchal Lyautey, qui est une sommité à l'époque et qui écrira cette phrase célèbre « Tout Français doit lire Mein Kampf ».
Qu'on retrouve en exergue du livre.
Et il se fait aider également, c'est moins connu, j'ai découvert à l'occasion de cette enquête, par la LICA, qui est l'ancêtre de la LICRA, la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme aujourd'hui, qui était la Ligue contre l'antisémitisme à l'époque, qui a aussi cette volonté-là de prévenir les Français des intentions de Hitler.
Et comment réagit Hitler quand il sait que ce livre est publié ? Qu'est-ce qu'il fait ?
Il est furieux, il voit le danger, effectivement. Et donc, et ça c'est assez stupéfiant, comme n'importe quel auteur aujourd'hui qui verrait ses droits d'auteur violés, il porte plainte devant le tribunal de commerce de Paris.
Il y a eu un procès à Paris
et donc
Hitler contre la maison d'édition.
Se tient un procès de Hitler auteur contre la maison d'édition. Et tout le débat devant les juges, c'est est-ce qu'on est face à Hitler chancelier et donc la publication de Mein Kampf, ce serait publier un texte politique de quelqu'un qui est au pouvoir, ou bien est-ce qu'on est face à Hitler écrivain et qui donc a le droit de vendre une traduction à qui il veut. Et il devait sans doute avoir de bons avocats parce qu'il a eu gain de cause. Et donc le tribunal de commerce de Paris a exigé en 1934 de retirer de la vente Mein Kampf en français.
Il y a quand même de nombreux leaders d'opinion qui vont lire ce livre. Qui, par exemple, en France ?
De Gaulle l'a lu, par exemple.
Ouais.
C'est un des rares. Il l'a lu, il a compris. Il a compris le danger. Et il a compris que... Mein Kampf signifiait que le nazisme était finalement quelque chose, une menace d'un genre tout à fait nouveau et donc particulièrement dangereux. Parce qu'à l'époque, le débat, c'était de savoir si Hitler, finalement, s'était assagi en arrivant au pouvoir, si finalement Hitler incarnait ce vieux nationalisme prussien qu'on connaissait déjà, qu'on avait déjà combattu pendant la Première Guerre mondiale. C'était ça le débat. C'est un débat très actuel. On a le même aujourd'hui finalement face à l'islamisme d'une certaine manière. Je ne veux pas faire de comparaison, mais effectivement, cette question-là se pose. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est nouveau ? Est-ce que c'est finalement quelque chose finalement de qui vient des tréfonds du passé et qu'on peut donc l'appréhender, le contrôler, le comprendre ? Et donc, en tout cas, à l'époque, De Gaulle a compris la spécificité nazie. Il n'est pas seul. À l'étranger, Churchill l'a compris. Ces personnalités-là qui ont compté par la suite dans le combat contre l'Allemagne nazie l'ont lu très tôt, dès les années 30. Roosevelt aussi l'a lu dès les années 30, l'a annoté. On a retrouvé l'exemplaire annoté de sa main. Donc malgré l'interdiction du livre en France en 1934, effectivement Mein Kampf continue son chemin dans les librairies françaises, sous le manteau en général, et donc il est lu.
Mais ces hommes politiques ne réussiront pas à réagir suffisamment vite contre Hitler, puisque évidemment la guerre aura lieu avec les conséquences que l'on connaît. Que devient Mein Kampf après la Seconde Guerre mondiale ? L'histoire de ce livre terrifiant continue sur RTL.
Vous écoutez RTL.
RTL, première radio de France.
La curiosité est un vilain défaut.
On va vers la guerre. Le grand public découvre alors Mein Kampf. En 1939, des dizaines de fascicules sont publiés. Trop tard, sans doute.
RTL.
Ces textes révèlent l'obsession anti-française de Hitler. Mais un thème est généralement ignoré. et le sort promis aux Juifs.
Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Ce soir sur RTL dans la curiosité, on vous raconte l'histoire de Mein Kampf avec le journaliste Antoine Wittking. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le livre se diffuse en Allemagne évidemment. Est-ce qu'il est vendu aussi dans les pays occupés ?
Alors, ce qui est étonnant, c'est que au même moment où en Allemagne il est diffusé par millions, distribué aux couples qui se marient, comme on l'a dit plus tôt, eh bien il est interdit en France. Et lorsque les nazis arrivent à Paris, ils édictent une liste qui s'appelle la liste Otto, la liste des livres interdits, dans laquelle on trouve des auteurs libéraux, des auteurs communistes, des auteurs juifs et Hitler. Voilà. Parce que
il continue
pour les mêmes raisons, pour les mêmes raisons qui ont prévalu auparavant, ils continuent d'interdire la diffusion de Mein Kampf et ils le font de manière vigoureuse. Il y a une descente qui est opérée chez l'éditeur Sorlot et puis les Allemands se lancent dans une traque aux exemplaires de Mein Kampf parce que à ce moment-là, effectivement, ils promeuvent l'idée de la collaboration et dans Mein Kampf, on trouve toute la haine pure et dure de Hitler à l'endroit de la France.
Est-ce que ce livre se vendra dans d'autres pays d'Europe ? Vous dites pas en France, mais je sais pas dans la Pologne occupée, dans etc. Est-ce qu'on a du mal à évaluer le nombre d'exemplaires qui ont été distribués en Europe, pendant la guerre notamment ?
C'est difficile à évaluer parce que pendant la guerre, les chiffres de vente sont très difficiles à avoir. Toujours est-il qu'avant 1945, Mein Kampf s'est vendu un peu partout. Et notamment, ça on le sait, s'est vendu en Italie, s'est vendu aux États-Unis, s'est vendu en Angleterre. À l'Est, c'est plus incertain et les chiffres sont plus compliqués à obtenir. C'est vendu au Liban ou en Palestine mandataire de l'époque, par exemple. Donc on sait que ce livre s'est vendu et on sait notamment que dans le monde anglo-saxon, où là les choses étaient plus claires, où les éditeurs tenaient leur comptabilité, il s'est bien vendu.
Alors, après la guerre, Hitler perd la guerre, il est donc mort il y a 70 ans et on a expliqué tout à l'heure que c'était pour ça que ce livre tombait dans le domaine public et c'est pour cela qu'on a décidé d'en parler en ce début de mois de janvier, Antoine Wittking. Que se passe-t-il ? La propagande alliée organise une mise en scène autour de Mein Kampf et autour quoi de l'imprimerie, c'est ça ? Qu'est-ce qui se passe ?
Oui, il y a ce film de propagande très étonnant que j'ai retrouvé, qui est conservé dans les archives allemandes, où des soldats américains casse les plaques de plomb qui ont servi à imprimer un certain nombre d'exemplaires de Mein Kampf, pas tous, il y a un certain nombre d'imprimeries, mais casse les plaques de plomb pour le fondre et en faire des plaques de plomb qui serviront à imprimer un futur grand journal de l'Allemagne démocratique qui est aujourd'hui le Frankfurter Allgemeine Zeitung. Voilà, donc il y a cette mise en scène-là parce que, effectivement, comme un certain nombre d'Allemands, les Alliés sont persuadés que Mein Kampf contient le mal, que Mein Kampf est un poison. Et alors, effectivement, on ne peut pas leur donner totalement tort. À l'époque, en 1945, le nazisme avait beau avoir été vaincu militairement, il n'avait pas totalement disparu des têtes.
Bon, Hitler ne laisse pas d'héritier, hein, et puis on imagine que pas grand monde va s'en réclamer. Mais qui détenait les droits du livre ?
Alors, les droits d'auteur de Hitler ont été transférés à l'État de Bavière parce que Hitler était bavarois, était citoyen bavarois, habitait en Bavière, son adresse était à Munich, et donc l'État de Bavière est devenu le détenteur de l'ensemble des droits d'ailleurs de Hitler, l'héritier d'Hitler, et donc notamment les droits d'auteur, et à ce titre-là, pendant longtemps, jusqu'à présent, interdisait la diffusion internationale de Mein Kampf.
Donc on a raconté tout à l'heure la réaction des Allemands à la fin de la guerre, l'histoire de la mère d'un historien. Cet historien vous l'a raconté, qui avait enveloppé le livre et qui l'avait enterré au fond de son jardin. Et on n'a pas tout à fait répondu à la question de la connaissance par les Allemands du contenu de Mein Kampf. Il était distribué aux jeunes mariés, d'accord, mais est-ce qu'ils l'ont lu, ce livre ?
Pendant longtemps, la doxa, l'idée générale sur ce sujet-là, c'était que les Allemands l'avaient très peu lu. Mein Kampf était trop volumineux, on le mettait sur son étagère de sa librairie pour, finalement, comme un objet de culte.
Combien de pages ?
Comme une Bible, 800 pages environ, c'est très long.
Avec une logorée verbale proche de ses discours,
avec une logorée proche de ses discours, qui tourne en rond, enfin voilà. Mais en même temps, quelque chose qui en faisait un livre assez moderne pour l'époque, c'est que cette logorée se juxtaposait avec une manière de raconter les choses très biographique, très autobiographique. Hitler se racontait
beaucoup. Il raconte
beaucoup,
sa vie dans Mein Kampf ?
Raconte sa vie, ouais. Et notamment raconte ses échecs par les ennemis qui menacent l'Allemagne et qui le menacent lui.
Ses échecs personnels ?
Ses échecs personnels sont ceux de l'Allemagne, dit-il à l'époque. Ouais. Et ça, c'est très fort, c'est très moderne, cette manière-là de raconter les choses. On le voit bien. Donc le débat de savoir si les Allemands l'avaient lu, pendant longtemps on pensait que non, on disait que non. Un certain nombre d'indices permettent de dire que les Allemands l'ont sans doute beaucoup plus lu qu'on a bien voulu le dire et qu'eux-mêmes l'ont bien voulu le dire après la guerre. Et notamment des historiens ont remarqué que les chiffres d'emprunt dans les bibliothèques augmentaient considérablement au moment des grands événements internationaux. Avant la signature des accords de Munich, qui est un moment clé, là les Allemands se précipitent dans les bibliothèques pour voir ce que Hitler dit lui-même de la question de la guerre contre la France, par exemple. Et puis, Mein Kampf a beau faire 800 pages, le régime nazi distribuait des brochures avec des extraits de Mein Kampf sur différents problèmes, sur la question de l'éducation des enfants, sur la question des femmes, sur la question des juifs, sur la question, je ne sais pas encore, du communisme, par exemple. Donc des digests qui étaient diffusés assez largement, publiés parfois dans les journaux. Donc on n'a pas de certitude sur la lecture ou non par les Allemands dans leur ensemble. Mmh. En tout cas, on peut être certain que ça a été sans doute beaucoup plus lu que ça n'a été longtemps dit.
Merci beaucoup Antoine Wittkin. Votre livre Mein Kampf, histoire d'un livre, est publié chez Flammarion Enquête et on verra si la maison d'édition Fayard décide finalement de publier le Mein Kampf commenté qui était prévu. Pour l'instant, c'est reporté. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Vous écoutez RTL.